Il est temps maintenant d'accueillir notre invité, Thomas Van Oost. Thomas, vous allez le découvrir, est un artiste photographe qui a trouvé avec les expositions multiples un langage photographique singulier qu'il explore depuis des années. En partant à la découverte de ces images, c'est à un voyage photographique que nous vous convions, un voyage passionnant où la place de l'homme dans la cité tient une place centrale. Et vous verrez dans cette émission qu'en photographie, le sens et la forme se rejoignent parfois en une alchimie troublante et grandiose. Thomas, bienvenue.
Bonsoir Ilan, bonsoir à tous.
Tu vas bien ?
Oh oui, très bien, merci.
Bon, on est ravis de t'accueillir en tout cas.
Alors, bah, je suis ravi d'être là.
Souvent, je commence l'interview avec une question rituelle, une sorte de mise en jambe pour faire connaissance. Je t'ai demandé de choisir dans ta photothèque une image qui te caractérise, qui peut représenter ta pratique. On va voir l'image s'afficher à l'écran. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors oui, j'ai choisi cette image-là en fait parce que c'est une des toutes dernières que j'ai réalisées cet hiver. Donc c'est une image vraiment très 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 récente qui finalement fait un petit peu la somme de tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé cette série, de tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à travailler des expositions multiples et qui reprend un petit peu tous ces éléments. Tout mon parcours photographique, en tout cas avec cette image-là, et je la trouvais assez emblématique de là d'où je viens et où je suis arrivé aujourd'hui et où je vais encore aller demain.
Parce et les territoires que tu explores et les directions
Oui, c'est ça, avec la lumière.
On parle d'expositions multiples. Peut-être, est-ce que tu peux nous dire très concrètement, pour commencer, ce que c'est qu'une exposition multiple ?
C'est très très simple en fait, hein. C'est simplement une image sur laquelle il y a plusieurs photographies qui sont superposées, qui viennent se surimpressionner les unes sur les autres et qui donnent finalement ce rendu où il n'y a pas un seul moment net, mais plusieurs moments qui viennent et qui se chevauchent dans une seule image.
Ouais,
et c'est quelque chose que je trouve assez qui se superpose.
Très bien. Et c'est pour qu'on comprenne, on va explorer un petit peu ça avec toi par la suite. Est-ce que c'est un travail que tu vas faire à la prise de vue sur le terrain ou un travail que tu fais au contraire sur un logiciel de retouche en post-production a posteriori ?
Eh ben, en fait, il y a les deux possibilités existent. Les deux, j'utilise ces deux techniques-là. J'utilise en fait pas mal de techniques différentes. J'utilise parfois des techniques mixtes aussi, avec parfois des impressions multiples à la prise de vue directement et parfois simplement plusieurs photos prises les unes à la suite des autres qui sont effectivement, comme tu dis, superposées en post-production sous Photoshop avec des calques, par exemple. Mais donc, il y a pas mal de façons différentes d'arriver à ce genre de résultat-là. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais par contre, il y en a certaines qui sont meilleures en fonction des circonstances, en fonction de la lumière ou très concrètement du temps qu'on a. Parce que parfois, simplement, on est là dans la rue. Moi, je travaille uniquement dans la rue, en fait. Donc, parfois, il y a quelque chose qui vient, qui se passe, on a quelque chose, on a une lumière, on a la personne et il faut pouvoir réagir. On n'a pas forcément le temps de commencer à aller dans les menus de l'appareil pour aller chercher le mode exposition multiple. Parfois, on est un peu plus posé, et donc là, on peut travailler de façon un peu plus réfléchie, je vais dire, en construisant le cadre, en construisant l'image petit à petit, en superposant les images directement dans l'appareil. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours un travail en post-prod, évidemment.
Ouais. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à t'entendre, c'est que c'est un travail qui peut être en tout cas débuté, qui peut être entrepris en grande partie à la prise de vue. C'est pas uniquement du travail de retouche et de montage par la suite, même si cette phase peut exister. Il peut y avoir des techniques très très hybrides qui utilisent les deux directions.
Exactement. On peut vraiment. En photographie, a fortiori, en photographie qui se veut artistique, le but, c'est un petit peu de casser les règles. Il n'y a pas vraiment... Il y a un canevas qu'on peut respecter, un certain académisme qui est là, qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir briser ces règles et de s'approprier la façon dont l'image se construit. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu faire avec cette démarche.
Alors justement, est-ce que tu peux nous dire, puisque c'est une voie vraiment en langage photographique, les expositions multiples que tu t'es appropriées et que maintenant tu exploites et qui te caractérise, en tout cas sur une large part des séries photographiques, comment est née l'idée des expositions multiples? Quel a été l'événement déclencheur?
Il n'y a pas vraiment un élément déclencheur. Donc, c'était il y a quelques années, on traversait avec ma femme une période assez chaotique, on va dire. Beaucoup de choses qui se passaient dans notre vie, c'était assez houleux. Et j'ai commencé par essayer d'exprimer ça, d'exprimer ce que je ressentais à travers l'écrit. J'y suis pas du tout arrivé. Et alors, j'ai essayé de le retranscrire en image avec la photo. Donc, j'ai essayé pas mal de choses différentes et il n'y a rien qui fonctionnait vraiment, en tout cas pas de la façon dont je voulais. Et un jour, j'ai essayé de simplement superposer des images. Comme ça, j'avais pris plusieurs images d'un bâtiment. Je les ai superposées et j'ai montré le résultat à ma femme qui m'a dit « Ah, c'est marrant, on dirait la vision de quelqu'un qui est sous ». Ou qui a pris de la drogue. Donc à l'époque on avait un bar et une boîte de nuit, ce genre de choses-là. Donc les gens sous, les gens sous influence, on connaissait. Et ça m'avait beaucoup fait rire ce qu'elle me disait. Je me suis dit mais oui c'est vrai, il y a quelque chose à explorer là-dedans, il y a quelque chose à travailler. Une image, une photographie, mais qui traduit un chaos, un état de conscience parfois un petit peu altéré peut-être, ou en tout cas un état de conscience qui n'est pas celui du quotidien ou de l'immédiateté. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai mis ça en lien avec les études de philosophie que j'ai fait il y a un certain temps déjà maintenant. Et c'est comme ça que ma démarche s'est construite petit à petit, à la fois au niveau graphique, mais aussi au niveau d'une certaine réflexion sur ce que je voulais exprimer à travers ces images.
Ouais. Et on va creuser cette idée un petit peu par la suite. Là, on pose des graines. Mais ce que je trouve passionnant dans ta démarche, c'est que tu as trouvé avec les expositions multiples un langage photographique qui va servir un discours, un ressenti, il y a un sous-texte. Là, le fond et la forme sont très, très étroitement imbriqués. Les expositions multiples, c'est aussi pour montrer le fracas du monde, sa pulsation, son mouvement imprévisible.
Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est ça que je voulais traduire. C'était ce mouvement permanent, le fait que le monde est en changement permanent, que le monde n'est jamais stable, que le monde n'est jamais aussi lisse qui peut l'apparaître au quotidien. Voilà, on se lève le matin, c'est la même chose que le lendemain, le fameux jour de la marmotte, là, ce fameux
oui,
film.
Oui, très bien.
Et tout qui se répétait en boucle. Ouais. Voilà, parfois on peut avoir l'impression que le monde est comme ça, mais c'est pas vrai. Le monde est en perpétuel changement, le monde est en perpétuelle évolution, le monde est en perpétuel fracas. Et c'est ça que je voulais traduire à travers mes images. Je voulais le traduire de façon graphique, de façon photographique, en montrant quelque chose qui justement n'est pas stable, n'est pas figé. Une photographie, normalement, c'est un petit moment de temps, une petite tranche de temps, un soixantième de seconde, un deux centième de seconde ou quelque chose comme ça, qui est figé pour l'éternité. Moi, ce que je voulais faire, c'était venir faire percuter plusieurs de ces petits fragments de temps dans une seule image.
Ouais. On va voir... Pardon, je te laisse terminer.
Non, je disais simplement, je terminais juste pour dire, c'est vraiment pour traduire visuellement une certaine idée du chaos et de l'instabilité du monde.
Ouais. On va revenir sur ces idées parce qu'elles sont vraiment constitutives de ta démarche. Moi, je me posais la question de savoir s'il y avait des sources d'inspiration qui t'avaient nourri du côté de la peinture ou du dessin peut-être. Sur certaines images, je trouve qu'on a, comme celle-ci, on a un rendu qui peut être très pictural ou très proche du crayonné du dessin.
Alors oui, en fait, j'ai été assez inspiré. Le dessin peut-être un petit peu moins, la peinture énormément. Donc ma mère est artiste peintre, donc j'ai toujours baigné là-dedans dans ce côté peinture, classique, on va dire. Et malheureusement, j'ai toujours été très, très maladroit de mes deux mains. Je suis absolument incapable de faire quoi que ce soit quand je dois utiliser mes 10 doigts. Donc, j'ai utilisé un petit peu la photographie pour essayer de retrouver ce côté graphique, ce côté un petit peu pictural, quelque part. Et alors, oui, on en discutait en préparant l'émission. Il y a vraiment une toile en particulier qui m'a vraiment énormément inspiré, c'est le nu descendant l'escalier,
ouais,
de Marcel Duchamp.
Voilà, on la voit apparaître, cette toile, justement, à l'image. Duchamp, c'était un peintre du début du XXe siècle qui s'inscrit notamment dans un mouvement qui est le mouvement futuriste. C'est un mouvement artistique qui célèbre la ville, le mouvement, la vitesse aussi. Je me posais la question de savoir s'il était dans ta photo, de façon plus ou moins revendiquée, une sorte de filiation avec ce mouvement.
Probablement qu'il y a quelque chose de ça. De façon revendiquée, je n'irai pas jusque-là, ouais, parce que voilà, c'est quelque chose peut-être plutôt inconscient, où je me retrouve dans certains des thèmes. Mais voilà, rien qu'au niveau graphique, au niveau pictural, clairement, je ressens une certaine, affinité, on va dire, avec ces thèmes et avec la façon dont ils sont traités. Et oui, les thèmes de la ville, du mouvement, de la vitesse, etc. Ouais. Vraiment, c'est les thèmes que je travaille moi personnellement aussi. Donc oui, il y a clairement quelque chose. Mais ça, cette filiation ne s'est pas faite de façon vraiment consciente et voulue. C'est plutôt quelque chose dont je me suis rendu compte a posteriori en regardant ce que j'avais réalisé, enfin les photos que j'avais faites par rapport aux travaux de ces gens-là.
Oui, des fois, on est nourri d'expériences et d'inspirations qu'on n'arrive pas forcément à identifier. Mais en tout cas, là, il y a des mots qui résonnent, le mouvement, la vitesse, la ville. Justement, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu à la thématique de la ville. Tes images ont comme scène la ville et tu en as fait le décor quasi exclusif de tes images, de tes photographies.
Oui,
est-ce qu'il y a une raison à cela?
Bah, d'abord, il y a une raison tout à fait concrète et tout à fait pragmatique, c'est que mes images, je les fais, j'ai plusieurs activités, donc j'ai d'autres métiers à côté de la photographie, évidemment. Mais mes images, je les fais principalement sur mes trajets entre le domicile et le travail, et il se fait que je travaille en ville. Et à l'époque, quand j'ai commencé cette série, j'habitais en ville exactement. Et j'habitais en ville également, je voulais dire. Et donc, voilà, j'étais plongé dans cet univers urbain. Donc, ça, c'est vraiment pour le côté très, très pragmatique. Et puis, d'un autre côté, la ville, c'est un petit peu le creuset où viennent se croiser toutes les destinées humaines, toutes les influences. Et c'est quelque chose d'assez passionnant et d'assez intéressant. Et justement, c'est là qu'il y a cette vibration du monde, ce chaos qui s'exprime le mieux, je dirais, dans l'interaction de toutes ces vies humaines, de toutes ces destinées qui se croisent. Par exemple, ici, ça c'est à côté d'une gare. Donc, c'est des milliers de personnes qui se croisent le matin à cet endroit-là, des milliers de destins qui se croisent pour parfois ne plus jamais se recroiser. Et voilà, il y a quelque chose d'intéressant, quelque chose d'un petit peu, oui, comme tu utilisais le terme de vibration, mais c'est vraiment tout à fait ça. Il y a une certaine vibration, et c'est ça que je veux retranscrire, évidemment, dans tes images.
On le voit dans ces images. Et à regarder tes images, moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, elles représentent souvent, elles ont comme décor la ville, la grande ville, la capitale, mais sans que l'on puisse préciser réellement. On est plus dans le concept de la ville que dans une ville réellement identifiable. Est-ce que c'est dû à la technique ou est-ce qu'il est important pour toi aussi d'anonymiser en quelque sorte la ville ?
En fait, c'est un petit peu les deux. Et puis, je dirais aussi, c'est lié au fait que je m'intéresse pas spécialement à des endroits iconiques d'une ville, mais vraiment à des endroits un petit peu banals, on va dire, des endroits du quotidien. Donc ici, simplement une rue à la sortie d'une gare, avec il y avait des éclairages, il y avait le la rue qui était humide, donc c'était intéressant au niveau des reflets, au niveau graphique, ouais. C'est magnifique. Donc moi, je m'intéresse aux formes, aux lumières, ce genre de choses-là. Je suis pas du tout intéressé par aller photographier, je sais pas moi, le Mannequin Piece quand je suis à Bruxelles ou la Tour Eiffel si je viens à Paris. C'est pas ça qui m'intéresse. La ville en tant que, comme je disais, de lieu où se croisent des destinées humaines et où le chaos, le tremblement de l'existence, de la vie se fait ressentir de façon la plus comment dire.
Ouais, c'est palpable. Il y a quelque chose en fait dans ce milieu urbain, moi je trouve, de très très organique dans cette instabilité figurée de tes expositions multiples. Il y a les images vraiment, on l'a vu, qui vibrent, qui bourdonnent, qui palpitent. Est-ce que tes photos doivent porter ces ressentis, ces émotions, cette palpitation, ce bourdonnement, cette vibration?
Mais c'est ce que j'essaye en tout cas. C'est le but que je poursuis. Après, est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas, ça, je laisse à chacun le soin de le décider. Mais vraiment, c'est ça que j'essaye moi en tant que photographe de transcrire à travers mes images.
Ouais. On abordera juste un petit peu après l'aspect un petit peu plus pratique de la façon dont tu réalises tes photos, mais parce qu'on nous pose la question sur le chat, sur une image comme celle-ci que l'on voit s'afficher à l'écran, dans quel ordre d'idée du nombre de photos on peut être de photos superposées?
Alors là, ça varie énormément. Au tout début de la série, je m'en tenais généralement à 5-6 expositions. Et au fil des années, j'ai commencé à multiplier les prises de vue. La première, celle qui ouvrait l'interview, ouais. Je te disais, c'était une des toutes dernières de ma série. Là-dessus, on en est à presque 26, si ma mémoire est bonne. Donc, ouais. Ça dépend vraiment et énormément, mais ouais. ça peut vraiment beaucoup, beaucoup varier.
Il y a un côté, moi je trouve qu'il y a un côté assez ludique ou presque artisanal, étrangement, dans la façon d'expérimenter le nombre de poses, etc. Est-ce que tu arrives, toi, à avoir une idée précise du rendu de l'image avec l'expérience, ou est-ce qu'on est toujours étonné de découvrir le résultat?
C'est une excellente question. J'ai une idée, au moment de la prise de vue, j'ai une idée vague, en tout cas, des potentialités du résultat final, de ce qui est possible de faire, et j'essaie de prendre les images pour arriver à ce résultat-là. Et évidemment, après, il y a toujours un petit effet de surprise, et parfois il y a un petit effet wow, et parfois il y a une grosse déception. Voilà, ça c'est toujours.
Il y a toujours. Les grandes déceptions, ça permet effectivement les jolies surprises. Hein. Ça, là, on va pas s'en
louper. Exactement, tout à fait. Ouais. Absolument, tu as tout à fait raison.
On a vu la place de la ville, ou en tout cas la ville comme concept, qui est le décor de tes images. Mais tes images ne sont pas des simples photos d'architecture éclatées. Il y a une place de l'humain qui est souvent une place d'ailleurs très centrale dans l'image. Quel est l'importance de l'humain présent ou figuré, en tout cas de la trace du vivant?
L'humain est vraiment central dans ma démarche, dans mes images, parce que ce dont je parle, ce dont j'essaye de parler en tout cas, c'est pas seulement le chaos du monde, mais c'est la place de l'être humain dans ce monde chaotique et en perpétuel mouvement. C'est la place de l'être humain face à des éléments, à une vie dont il ne maîtrise pas tous les paramètres. Y a une question d'angoisse aussi là-dedans, évidemment. Il y a une question de prise de risque de l'humain vis-à-vis de la vie en permanence. Et aussi une question de... Comment exprimer ça? Comment la personne peut s'insérer dans ce monde qui n'arrête pas de changer, qui n'arrête pas de bouger, qui n'arrête pas de se modifier et d'être imprévisible et chaotique et instable. Donc oui, c'est une position, l'humain a toujours une position centrale, et c'était très pertinent ce que tu disais, c'est au niveau de la composition aussi. J'aime beaucoup centrer les sujets humains dans l'image, effectivement.
Et on le voit, souvent on a comme ça une ville qui palpite avec plusieurs images, et souvent il y a une sorte de, aller presque de dichotomie entre un monde qui est en mouvement constant et le fait que l'humain soit relativement stable, ou en tout cas qu'il le perçoive comme relativement stable. J'ai lu que c'était un point qui était important, central oui. même dans ta démarche. Tu interroges beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler simplement ?
Oui, bah écoute, c'est un petit peu comme j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a vraiment ce que j'appelle une sorte de trahison ontologique au niveau de la perception de la réalité, c'est-à-dire que on se lève le matin, voilà, tout semble relativement stable, c'est relativement la même chose qu'hier, jusqu'au moment où c'est plus comme hier, jusqu'au moment où il y a un point de rupture, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, il y a quelque chose qui se passe dans notre existence, et voilà, la vie a basculé, on peut tomber malade, on peut avoir un accident, il peut y avoir des drames de la vie, il peut y avoir des belles choses aussi, on peut avoir un enfant qui arrive, mais il y a un élément qui arrive qui fait que la vie n'est plus la même que hier. Or, le monde, jusque-là, se présentait comme quelque chose de stable, de lisse et de relativement prévisible. Il y a une certaine trahison du monde, quelque part, vis-à-vis de l'humain, à ce niveau-là, quelque chose que personnellement, moi, je à l'époque, en tout cas, quand j'ai commencé cette série, qui me révoltait. Et voilà, ici, tu mets cette image-là que j'avais choisie pour illustrer ce thème-là, parce que justement, l'humain n'est pas désarmé non plus. Il peut se dresser assumer à sa place dans le chaos du monde. Et voilà, ici, avec ce jeune homme-là qui a une attitude comme s'il allait conquérir le monde, justement, je trouvais que c'est illustré parfaitement cette dichotomie entre l'univers qui se présente comme relativement stable, mais qui en réalité est chaotique, et la place de l'humain dans ce monde qui n'arrête pas de bouger.
Et en tout cas, c'est des questionnements qu'on sent au travers de la réalisation des images. Alors, on n'a pas forcément le sous-texte, mais en tout cas, je trouve qu'à voir les images, on le ressent physiquement. Et au travers des explorations, enfin des expositions multiples, tu vas explorer aussi le potentiel graphique de cette technique. Par exemple, en travaillant ou en cherchant la symétrie, un travail sur la symétrie, comme dans une série qui s'appelle Concept. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette série ?
Ben, oui, en fait, cette série-là, je l'ai commencée à la base. C'était une recherche graphique avant tout. Donc, je regardais beaucoup les gravures de Escher. J'avais envie d'essayer de trouver quelque chose de traduire en photographie quelque chose d'un petit peu équivalent avec des architectures impossibles, des architectures très géométriques, mais qui n'ont pas réellement d'équivalent dans la réalité. Donc c'était avant tout un travail graphique. Bon, ça a évolué finalement, ça ressemble pas tellement à Escher, mais voilà, en essayant de jouer avec ça,
Moi, instinctivement, en voyant la photo, j'ai immédiatement pensé aux architectures impossibles, des chairs avec des formes comme ça qui jaillissent, qui se perdent dans un enchevêtrement de perspectives impossibles, d'escaliers dont on ne sait pas si ils montent ou ils descendent. Ça questionne aussi un petit peu l'absurdité du monde, pas forcément le mouvement, mais effectivement, on ne sait pas la perte de direction, en tout cas les frontières se perdent.
Oui, c'est ça. Et il y a une autre inspiration aussi pour ça, avec ces architectures un petit peu impossibles, comme tu dis, c'est les gravures. C'est un graveur du 18e siècle, si je me souviens bien, Piranesi, qui avait fait une série sur les prisons imaginaires, où il y avait justement des escaliers comme ça qui ne mènent nulle part, des énormes salles caverneuses avec des hauteurs sous plafond absolument incroyables, très angoissantes. C'est un petit peu ce genre, cet univers-là, entre les recherches graphiques des chairs, très formelles parfois, et cet univers un petit peu angoissant. C'était ça un petit peu l'idée que je voulais,
Questionner,
travailler.
Puis il y a le côté, il y a l'idée d'enfermement aussi, dans une spirale comme ça, qui est un petit peu
absurde. Oui, c'est ça, exactement.
Ouais. En tout cas, il y a des questions qui sont très profondes, très intéressantes, je trouve qu'ils sont posées par ces images. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse, parce qu'on a des questions là-dessus, à ta façon de procéder à la prise de vue. Dans un premier temps, tu m'expliquais que pour tes photos, ce qui importe, c'est le décor. Avoir un décor ou saisir la scène. Est-ce que tu pourrais partager quelques conseils, par exemple, pour un amateur qui souhaiterait s'essayer aux expositions multiples? Comment on fait pour trouver un décor? Est-ce qu'il y a un bon décor déjà pour des expositions multiples?
Alors, un bon décor, oui et non, tout peut servir de décor quelque part. Moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de trouver des endroits où il y aura des lignes. Des éléments graphiques relativement forts qui pourront se découper et finalement quand ils seront superposés, quand les images seront superposées, qui vont venir faire, tu parlais tout à l'heure de crayonner, qui vont faire justement cet effet un petit peu crayonné. Alors ce qui est très important, c'est évidemment la lumière, mais bon, ça, en s'adressant à un panel de photographes, ça va de soi. Mais ma démarche, c'est plutôt une démarche de photographie de rue à la base, hein. Donc je me promène, j'observe. Je regarde autour de moi, s'il y a quelque chose qui se passe, voilà, comme sur celle-ci qui s'affiche, il y avait quelque chose qui se passait, il y avait du mouvement, il y avait la personne qui court, la jeune femme au premier plan, la lumière. Enfin, les deux n'ont jamais été en même temps, hein. Ils sont sur des images différentes. Donc, voilà, c'est ça aussi la possibilité que ça ouvre, c'est de pouvoir venir faire se percuter des moments différents.
Ouais. Ce qui est intéressant, tu l'as dit là et on allait en parler un petit peu après, mais je vais creuser maintenant l'idée. Tu travailles ton décor, tu travailles la photo un peu comme un photographe de rue, c'est-à-dire que tu vas trouver un décor, on a bien compris qu'il fallait quand même qu'il y ait idéalement une belle lumière, mais surtout pour les expositions multiples, peut-être des lignes ou un point d'accroche visuel, mais après tu vas attendre un petit peu comme un photographe de rue qu'il se passe quelque chose et que quelque chose advienne dans le décor. Sans cet humain ou cette incursion de l'humain, la photo ne pourrait pas être prise.
Oui, absolument. Tu as absolument raison là-dessus. C'est l'être humain, l'élément humain qui va venir justifier la photo finalement, parce que c'est ma série ici parle de la ville, oui, mais de l'humain dans la ville. Il ne peut pas y avoir de ville sans humain, hein, ou alors on parle de ville post-apocalyptique, comme dans les films hollywoodiens, mais c'est pas ça que je photographie. Moi, ce que je photographie, c'est la vie aujourd'hui, le chaos du monde d'aujourd'hui, de ce qu'on ressent aujourd'hui en étant un être humain traversant le monde. Et voilà, la ville, finalement, comme tu le disais au début, est un petit peu un décor, et le décor, où toutes ces influences viennent se croiser, mais c'est l'humain avant tout qui vient être le pivot. Donc parfois c'est très frustrant, hein, on parlait de prise de vue, donc parfois il y a un magnifique décor, un endroit où je me dis, oui, il pourrait vraiment y avoir moyen de faire une image extraordinaire ici, et puis il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'humain. Ouais. Je prends une dizaine de photos peut-être, je travaille mon cadre, je travaille ça. Dans ces moments-là, en général, j'ai le temps de mettre le boîtier en exposition multiple et de voir un petit peu ce que ça peut donner comme rendu. Mais voilà, il ne se passe rien. Ça peut être très frustrant.
La frustration du photographe de rue.
Exactement.
Plusieurs sur le chat, dont Pierre Montand, que je salue. Oui, je comprends. On me dit, la référence est sortie 2-3 fois sur tes images. Je sais que t'as pas forcément d'inspiration au niveau de la BD, mais c'est vrai que des auteurs de BD comme Bilal, comme Jean Covici, on peut retrouver une parenté, en tout cas, graphique, notamment avec cette image. On est sur la photographie et en même temps, on est sur quelque chose qui a beaucoup de texture et qui pourrait se rapprocher de la peinture ou du dessin. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant d'arriver à trouver, à explorer cette direction, en tout cas en photographie. On parlait de décor, de l'humain. Tu fais comment, toi? Est-ce que tu fais des repérages en journée en te disant « je vais revenir à cet endroit plus tard avec du matériel photo » ou est-ce que, au contraire, comme un photographe de rue, tu as un matériel très léger et en fait, tu photographies au moment de la rencontre avec le décor.
Oui, c'est ça. C'est plutôt la deuxième démarche. Donc ici, moi, je sais pas. Je t'expliquais il y a quelques temps. Moi, le matériel, je suis pas spécialement intéressé par ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'image qu'on peut en tirer. Donc oui, j'ai un tout petit boîtier, un minuscule petit appareil qui tient dans la poche que j'ai tout le temps avec moi. Et voilà, je me promène, je trouve quelque chose, je trouve un endroit. Et ici, c'était cette image-là que j'avais choisie pour illustrer ce concept, cette idée-là. C'est parce que c'est un endroit que je trouvais magnifique. Je trouvais qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose avec cet escalier en spirale, absolument incroyable. Malheureusement, c'est un lieu où visiblement il n'y a pas grand monde qui passe. Il y a des escaliers mécaniques juste derrière, il y a un ascenseur à côté. Personne prend l'escalier, ce magnifique escalier en spirale. Donc j'ai dû attendre, j'ai dû revenir quand même pas mal de fois. Mais au hasard, hein, c'était au hasard de mes pérégrinations. Je venais par là pour aller manger mon sandwich à midi. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est passé par là et qui. Et là, j'ai enfin pu prendre l'image que j'avais en tête depuis tout ce temps. Mais voilà, c'est des aléas un petit peu, comme tu disais, de la photographie de rue.
Donc, on a bien entendu que tu photographies avec un appareil léger, il n'y a pas de pied, etc. Et en fait, on l'a pas dit, mais peut-être qu'il faut quand même le préciser. Quand tu prends les photos, tu prends une photo, tu décales légèrement ton cadre, tu reprends une photo, tu redécales très légèrement, etc., etc. C'est comme ça que tu fonctionnes.
Oui, on décale la prise de vue, puis on tourne un petit peu l'appareil, puis on joue sur le zoom aussi. Parfois, on donne un petit coup de zoom ou on dézoome pour avoir des focales. Bon, il faut pas le faire, il faut pas passer du 24 mm au 100, hein, parce que là, ça va ressembler à rien à la fin. Encore que ça pourrait être intéressant, tu sais, ça
Oui, mais
peut,
on va
pourquoi
vers
pas.
l'abstraction
Bon, après,
peut-être.
oui, c'est ça. Là, ça, en tout cas, ça sortirait de la démarche que moi, je veux faire ici. Mais oui, voilà, on bouge un petit peu l'appareil, alors on bouge l'appareil, mais pas à la prise de vue, hein, donc c'est pas du mouvement volontaire. Le mouvement, il vient toujours ici, par exemple, sur cette image-là, c'est le métro qui est en mouvement, c'est pas moi qui bouge ou quoi que ce soit. J'ai eu de la chance.
Moi, cette image, je voudrais bien qu'on s'y arrête parce que je la trouve assez étonnante. On a tout qui vibre dans l'image et on a cette personne de l'autre côté du quai qui est véritablement dans un interstice figé. Comment c'est possible comment tu as construit l'image
Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu juste cette personne qui. Donc, je voulais avoir un petit peu le métro en mouvement, et puis il y avait ce gars-là qui était en face de moi, mais je le photographiais pas spécialement lui, hein, c'était je voulais le métro en mouvement. Et vraiment, le hasard de la prise de vue a fait que j'ai eu une photo sur la série que j'ai fait à cet endroit-là où il était juste entre deux rames avec ça comme ça. Et donc, c'était assez extraordinaire, hein. Donc, j'ai superposé mes images, j'ai construit un petit peu le cadre autour. Mais clairement, c'est encore une fois, c'est ce monsieur-là qui est le pivot de l'image, et c'est autour de lui que tout est construit.
Oui, et que tout vibre et tout tourne,
Oui, c'est ça.
on a l'impression.
Et ici, j'étais avec un petit fisheye en plus ce jour-là. Ou, non, non, pardon, excuse-moi, ça, j'avais rajouté l'effet fisheye en post-prod
Ah ben
pour.
justement, on me pose la question, est-ce que tu peux préciser quel est ton boîtier et si tu as une focale de prédilection?
Alors, ça n'a rien d'impressionnant. Je sens que les photographes aguerris vont être un petit peu déçus. J'utilise un petit boîtier Lumix GX80 de 2016, que j'ai pas updaté depuis 2016, avec le petit objectif qui vient en kit, donc un petit 12-32 qui est très très sympa. Et le gros avantage de ce boîtier-là, c'est qu'il est minuscule, comme je disais. Et vraiment, il passe totalement inaperçu. Il permet de faire de la photographie de rue sans attirer l'attention spécialement et sans effaroucher tout le monde autour de moi.
Je
Donc,
comprends bien
moi,
que l'idée, c'est d'être léger et d'être extrêmement mobile et de pouvoir
Exactement.
photographier quand tu l'entends.
C'est
Il y
ça,
a
de pouvoir
aussi,
sortir le boîtier. Voilà.
dans tes images, souvent, une touche colorimétrique forte qui est apportée probablement en post-production avec un rendu, on le voit sur cette image, assez froid, assez métallique. Est-ce que c'est des effets que tu vas rechercher? Parce qu'effectivement, sur la ville, ces rendus bleus, froids ou métalliques peuvent être cohérents.
Oui, c'est quelque chose que je recherche au niveau de la recherche graphique. C'est un petit peu un parti pris esthétique. Hein, donc, moi, je fais pas du tout de la photographie documentaire. Je fais pas du tout de la photographie qui se veut réaliste quelque part. Donc, voilà, je me permets de tricher un petit peu. Je me dis qu'il y a, je ne me soumets pas vraiment à des règles. Ce que je cherche, c'est un rendu qui m'intéresse. Donc, oui,
Oui,
je
mais là, on a bien
trouve.
conscience qu'on n'est pas dans de la photo réaliste ou documentaire qui doit témoigner. Et en même temps, tu sais quoi, je trouve que ça témoigne du monde de façon étonnamment pertinente et de façon troublante, bien qu'on s'éloigne d'une représentation réaliste, en fait, de la scène.
Ben oui, ben merci. Ça me
Mais
touche beaucoup ce que tu dis.
Vous direz sur le chat si vous avez le même ressenti. J'avais une dernière question. Pendant longtemps, j'ai cru comprendre que tu faisais tirer tes images sur des plaques justement
de
métal.
Exact.
C'était pour que tu as changé. Maintenant, tu es sur du papier fine art, il me semble. Mais pour chercher quel rendu?
Ben justement, comme tu disais, un rendu métallisé, un rendu très très saturé. Ça, c'était des plaques avec vraiment un rendu high gloss, donc une finition extrêmement brillante, extrêmement avec même un petit côté clinquant, on peut dire. Hein. Et même le papier que j'utilise maintenant, c'est un papier à base métallisée qui permet d'avoir un petit peu le même genre de rendu avec une plus grande finesse dans les détails parce qu'on est sur du fine art, on n'est plus sur de la sublimation. Donc, ça permet d'avoir déjà que j'utilise un appareil qui a pas beaucoup beaucoup de pixels, donc j'essaye maintenant d'éviter de perdre encore des détails au tirage, mais voilà, c'est plutôt pour avoir un rendu, oui, comme tu dis, métallisé, quelque chose d'un petit peu pas nécessairement froid, parce que ça peut être chaud aussi. Hein. Il y a certaines images où je fais un traitement un peu plus chaud, mais un traitement, oui, vraiment, j'aime bien le rendu assez métallisé.
Ouais. Et avec l'idée que la photo n'est réellement terminée qu'une fois qu'elle est tirée, c'est-à-dire
Oui,
qu'elle est
absolument.
Physiquement présente, c'est quelque chose qui est important dans ta démarche. C'est pas un fichier. Là, on montre évidemment des images, mais c'est, elle prend toute sa dimension une fois imprimée.
Oui, absolument. J'ai toujours été un petit peu surpris de la place que prennent les fichiers digitaux dans le monde d'aujourd'hui au niveau de la photographie. C'est que maintenant, on a tendance à, enfin, c'est un petit peu un ressenti, mais que la photo, c'est sur Instagram, c'est sur les sites web, etc. Mais une photo, en tout cas une photo qui se veut artistique, avant tout, ça doit être un objet. C'est quelque chose qui doit venir dans l'espace, dans le monde. Un fichier, c'est un petit peu comme une planche contact, comme un tirage de lecture, si on veut. C'est un outil qui est très, très pratique pour se rendre compte de l'image finale, mais qui n'est jamais qu'une preview ou un aperçu. Ouais. Et la vraie image, c'est celle qui sera accrochée au mur, qui vivra et qui participera à l'espace physique d'un endroit.
Eh ben justement, pour participer à l'espace physique, à quel format tu fais ? Est-ce qu'il y a un format où tu fais tirer tes images ou ça dépend ?
Généralement, c'est plutôt des grands formats, à moins que l'organisation de l'exposition en particulier préfère des plus petits formats. Mais moi, ce que je favorise, c'est surtout des grands formats, avec des bases d'un mètre, 80, 100, des choses
quand
comme
même.
Ça.
Ouais, d'accord. Des très grands formats.
Des formats qui permettent justement d'avoir un objet qui va vivre dans une pièce, qui va imposer sa présence dans son espace. Ça, je trouve que c'est important et ça fait partie de la démarche, de ma démarche artistique. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça, le fait d'avoir, de travailler en grand format de tirage, évidemment, je veux dire, je travaille pas du tout en grand format comme ça, mais c'est quelque chose qui est assez important pour la démarche, effectivement.
D'accord. Eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer et ta démarche et ton univers. Moi, je trouve ça passionnant, tant en termes d'idées qu'inspirant sur la réalisation. Je trouve que ça donne envie.